monarchie, c'est bien sûr un élément qui représente les pays. Du coup, dès qu'il y a des problèmes de corruption, ils devraient être les premiers à payer, ce qui n'est pas le cas.
Est-il encore en Espagne ou a-t-il déjà quitté le pays? L'ancien souverain Juan Carlos s'exile face à l'enquête qu'il vise pour corruption. On rejoint Nicolas Feldman à Madrid dès le début de ce journal. Quand le masque obligatoire et les recommandations de Bruxelles vident les campings de Mayenne, la clientèle belge a déserté et les gérants sont dans le rouge.
La saison est morte, on fera une année blanche totale. Et là, avec les annonces du gouvernement belge, on n'a plus personne. Au mois d'août, on compte sur zéro recette.
Dans ce journal également, la bataille qui fait rage au cœur de l'été pour la présidence du groupe En Marche à l'Assemblée. Deux militaires se prétendant du contre-espionnage arrêté pour un projet de meurtre. On appellera les sauveteurs en mer. Êtes-vous plus responsable ou pas sur les plages en cet été post-confinement? Et puis ça fait du bien, les festivals qui se maintiennent. On ira profiter du son du piano à la Roque d'Anteron.
Notre seul festival pour cet été, c'est la Roque d'Anteron. Celui-là, il est particulièrement cher à notre cœur. C'est une autre ambiance, un peu différente, un petit peu étrange. Ouais, on s'en souviendra.
Votre invité politique après ce journal, Sébastien.
Un an après l'affaire des homards qui l'a poussé hors du gouvernement, il tente un retour politique. L'ancien ministre François de Rugy veut prendre la tête du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Comment veut-il tourner la page? Il est mon invité politique dans un quart d'heure. Très belle matinée à vous. 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce ne sont pas les joyaux de la couronne, mais les commissions saoudiennes qui valent à Juan Carlos une enquête pour corruption en Espagne. Des millions d'euros qui lui auraient été versés par le régime de Riyad après l'attribution à des entreprises espagnoles du marché du futur TGV d'Arabie Saoudite. Et c'est donc cette affaire qui est à l'origine de l'exil ce matin que choisit l'ancien souverain.
Nicolas Feldman, vous êtes notre envoyé spécial à Madrid. Est-ce qu'on sait si Juan Carlos est déjà parti et surtout où il compte aller ?
Alors, ce que l'on sait, d'après plusieurs médias espagnols, c'est que Juan Carlos aurait quitté sa résidence hier avant même d'annoncer son exil. Ce matin, dans la presse, des sources proches de la maison royale le donnent même déjà hors d'Espagne, mais pour le moment, impossible de savoir précisément où se trouve l'ancien roi. Et ce qui est sûr, c'est que ici, à Madrid, pour beaucoup d'Espagnols, cet exil ressemble à une fuite. Pour Antonio, par exemple, il est temps que Juan Carlos rende des comptes.
La monarchie, c'est bien sûr un élément qui représente les pays. Et donc du coup, dès qu'il y a des problèmes de corruption, ils devraient être les premiers à payer, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il devrait rester en Espagne, qu'il devrait faire face à tout ce qui se passe et payer.
Oui, mais voilà, Juan Carlos, comme certains le surnomment ici, c'est aussi le roi de la démocratie, l'homme qui a mené l'Espagne de l'après-Franco vers ses premières élections libres. Et ça, eh bien, les plus anciens s'en souviennent, comme Alfonso, 72 ans. Il avait 28 ans quand Juan Carlos est monté sur le trône.
Je suis triste parce que c'est un monsieur qui a fait beaucoup pour l'Espagne et tout d'un coup, oui, d'accord, il a fait des erreurs, bon, mais c'est une époque qui s'effondre et je suis muy triste.
Voilà, triste comme cet Espagnol, mais le prix à payer, expliquait hier Juan Carlos, pour protéger le règne de son fils, le roi Felipe VI, et toute l'institution royale.
Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Madrid. Cet exil, c'est l'ultime étape d'une descente aux enfers entamée il y a des années, déjà par Juan Carlos, qui avait dû abdiquer en 2014 sur fond de dépenses dispendieuses de safari au Botswana. Son départ cette fois-ci peut-il remettre en cause toute la monarchie espagnole? Écoutez l'une de ses biographes, Laurence Debray, qui était notre invité ce matin.
Il ne fuit pas devant ses responsabilités. Il part pour sauver la couronne, pour que ses affaires n'entachent pas l'image de la couronne et pour ne pas encombrer son fils.
Pour ne pas encombrer son fils. Vous dites, il était devenu encombrant, cet ancien roi, ce roi émérite.
Ce roi émérite qui a quand même restauré la démocratie en Espagne, qui a assuré pendant presque 40 ans une période de stabilité et de croissance économique, ce qui était totalement exceptionnel pour le pays. Malheureusement, tout ça, on l'oublie à cause de ses affaires. Et puis, c'est une jeunesse espagnole qui n'a pas connu le franquisme, qui ne sait pas ou n'a pas vraiment conscience de ce que le roi d'Espagne, enfin le roi émérite, a garanti, a permis. Toute cette génération ne sait pas ce qu'il lui doit et commence à être ouvertement républicaine.
Laurence Debray, biographe de Juan Carlos, à votre micro, Sébastien Krebs, tout à l'heure à 6h40.
Europe 1, 8h05.
En France, la tendance s'esquissait en fin de semaine dernière déjà et elle se confirme ce matin. Le nombre de personnes en réanimation augmente légèrement depuis vendredi. 13 patients de plus en 3 jours et 5 nouveaux clusters détectés par les autorités.
Et cette conséquence inattendue des recommandations de la Belgique qui déconseille à ses ressortissants de venir en Mayenne au même titre qu'en Catalogne. Les campings mayennais se retrouvent désertés, eux qui font habituellement le bonheur de la clientèle d'Europe du Nord. Charles Guyard.
La saison est morte, on fera une année blanche totale.
Audrey Ngaroui est désabusée. Patron d'un camping perdu au milieu de la nature mayennaise, ses clients étrangers ont déserté et pour cause.
On a eu quelques Belges qui sont venus, aucun néerlandais. Et là, avec les annonces du gouvernement belge, on n'a plus personne quoi, en fait. Et donc, financièrement, on sait pertinemment que là, au mois d'août, on compte sur zéro recette.
Samedi, Bruxelles a en effet classé la Mayenne sur la liste rouge des destinations touristiques. Résultat, les réservations s'annulent en cascade pour le mois d'août et les Belges déjà installés sont repartis. Excepté Jean-Michel et Monique. Originaire de Liège, le couple a lui décidé de prolonger son séjour pour éviter un confinement à domicile car oui, les règles sont strictes pour les ressortissants du plat pays.
Tous Belges qui vont revenir de la Mayenne, 15 jours, ne peuvent plus sortir de la maison. Nous avions un formulaire à remplir.
On demande votre date d'arrivée et votre date de départ.
Et gare aux oublis, les autorités belges sont sur les dents.
Ce document est important parce que si vous n'aviez pas à la frontière et que vous vous faites arrêter, c'est 250 euros d'amende.
Hier, dans une lettre ouverte, le président du département Olivier Richefou a contre-attaqué, invitant le Premier ministre belge à venir sur place découvrir les atouts de la Mayenne. Dans le respect des gestes barrières, cela va de soi. Soulgé sur Ouette, Charles Guyard, Europe 1.
Et visiblement, le port du masque suscite encore agressivité et violence chez certains de ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de l'obligation de le porter. Un client d'une laverie du Val d'Oise a porté plainte après avoir été roué de coups ce week-end par 4 personnes, dont l'homme à qui il avait demandé de porter son masque dans le local. Frappé à coups de batte de baseball, il souffre entre autres d'un traumatisme crânien.
L'actualité politique, le Parlement est en vacances mais les tractations sont à l'œuvre en ce moment pour la présidence du groupe En Marche à l'Assemblée nationale.
Gilles Legendre doit céder sa place à la rentrée. 4 candidats sont déjà sur les rangs pour lui succéder et visiblement la campagne interne est déjà bien lancée. Adrien Beck.
L'élection du successeur de Gilles Legendre risque d'être disputée. Déjà 4 candidats, dernier déclaré. Outre le député Patrice Anato, la médiatique porte-parole de La République En Marche, Aurore Berger. Il est temps de féminiser le poste, dit un député. Mais voilà, la candidate a longtemps appartenu à l'UMP. On a déjà un gouvernement de droite, c'est suffisant, balaie un député. On le constate, en plein cœur de l'été, les premières flèches commencent déjà à fuser. François de Rugy, de retour après une année très discrète et l'affaire des homards, il flatte à tout va. Legendre fragilisé, il était déjà en campagne, c'est indécent, commente un conseiller. Flèches encore contre Christophe Castaner, lui aussi candidat, on le dit souvent apprécié des députés. Pas de tous, visiblement. Il a planté le mouvement et foiré à l'intérieur. Il est peut-être temps d'arrêter, tacle l'un d'eux. D'autres candidats potentiels doivent encore se prononcer sur leurs intentions. La bataille d'amabilité a en tout cas déjà bel et bien commencé.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Voilà, ambiance au sein du parti majoritaire et l'un des 4 candidats, François de Rugy, est l'invité d'Europe 1 ce matin, juste après le journal. Un an après l'affaire qu'il avait poussé hors du gouvernement, il est candidat donc à la tête de ce groupe LREM à l'Assemblée.
Première sortie pour Emmanuel Macron ce matin en vacances au fort de Brégançon. Le président se rendra à Toulon à la rencontre d'aide à domicile. Hommage dit l'Élysée à ceux qui prennent soin des personnes âgées en cette période de pandémie et de forte chaleur. Au volet judiciaire, c'est un scénario digne d'un mauvais polar. 2 militaires se présentant comme des membres de la DGSE ont été mis en examen et écroués pour tentative de meurtre. Arrêtés il y a 10 jours en possession de plusieurs armes, ils préparaient un règlement de compte totalement personnel, Guillaume Bier.
Dans le jargon du renseignement extérieur, on appelle cela une opération homo. Comprenez, un assassinat ciblé, validé par le chef de l'État. Mais dans cette affaire, aucun feu vert n'est venu de l'Élysée car la mission n'avait rien d'officiel. C'est un règlement de compte parfaitement privé que préparaient les deux hommes quand les policiers les ont arrêtés armés il y a 10 jours dans une voiture volée à Créteil. En garde à vue, ils ont tout de suite prétendu faire partie du service action de la DGSE, prestigieuse unité chargée des opérations les plus sensibles à l'étranger. En réalité, ils sont bien loin du niveau des espions français capables d'infiltrer les réseaux les plus dangereux. Ces deux suspects de 25 et 28 ans sont de simples couple militaire du rang affecté au centre d'entraînement spécialisé de Sercotte près d'Orléans, une structure qui dépend bien de la DGSE. Mais les deux hommes n'auraient rien à voir avec l'élite du contre-espionnage. Un troisième suspect, un civil, a également été appréhendé. Le trio est mis en examen et incarcéré le temps qu'un juge d'instruction et la brigade criminelle fassent toute la lumière sur cette enquête.
Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Il y a moins d'une semaine, le gouvernement alertait sur le nombre de noyades. Cet été, 3 enfants morts le même jour en Indre-et-Loire. Le week-end dernier, 3 autres morts en région Occitanie. Le nombre de noyades accidentelles a augmenté de 30% depuis 2015.
Bonjour Guillaume Turpin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes inspecteur adjoint des sauveteurs en mer de la SNSM. Vos sauveteurs qui sont présents sur plus de 200 plages cet été. Il y a peut-être encore plus d'empressement à aller à la mer et à aller en profiter cette année après le confinement. Est-ce que vous constatez davantage encore de comportements imprudents que les années précédentes ?
Oui, alors effectivement, c'est vrai que les gens étaient pressés de pouvoir retrouver les plages du littoral français. Alors non, on n'observe pas plus d'accidents que les années passées. Si vous voulez, le constat que l'on fait depuis quelques années et les différentes enquêtes noyades qui sont mises en place par Santé publique France, c'est qu'il y a un lien forcément entre le nombre d'accidents et la fréquentation des plages. C'est-à-dire que si la météo est clémente, si les températures sont bonnes, eh bien forcément les plages sont fréquentées et donc les accidents augmentent. Donc depuis le début de la saison, on a plutôt eu des bonnes conditions climatiques, donc forcément le nombre d'accidents et le nombre de noyades est plutôt élevé.
On a beaucoup parlé du masque sur les plages ou des mesures de distance. Ces mesures sanitaires face au Covid, elles s'appliquent à vous aussi. Le travail de sauveteur en mer et surtout ses conditions, elles ont changé pour vous cet été. Vous avez formé vos sauveteurs différemment aussi ?
Alors exactement, il a fallu que l'on mette en place donc des mesures particulières pour nos nageurs sauveteurs cet été sur les plages. Donc un module de formation leur a été enseigné avant la saison estivale. Donc l'objectif, si vous voulez, c'est de protéger forcément les sauveteurs vis-à-vis de ce virus, vis-à-vis du grand public qui éventuellement pourrait être porteur. Donc on a mis en place par exemple des périmètres de sécurité devant les postes de secours où on demande au public de demander autorisation au sauveteur avant de rentrer dans l'enceinte du poste. Et cette entrée ne peut se faire que si le public porte un masque. Donc bien sûr, on limite les entrées, c'est uniquement si nécessité, s'il y a besoin d'un soin. Et en parallèle, on a mis en place une campagne d'affichage sur les plages où nous sommes présents pour faire part donc des bons réflexes à adopter pour le grand public sur la plage.
Merci beaucoup Guillaume Turpin, inspecteur adjoint de la SNSM, d'avoir été en direct avec nous ce matin. On entend votre message de prudence, il va faire chaud dans les prochains jours, donc prudence encore accrue sur les plages du littoral français où vos 1400 nageurs sauveteurs sont déployés. Merci beaucoup.
Vous écoutez Europe 1, il est 8h13, la suite du journal Sébastien Krebs, Théo Manval.
À l'étranger, Donald Trump change de ligne sur TikTok. L'application chinoise pourra continuer à fonctionner aux États-Unis, mais à condition d'avoir été vendu à une entreprise américaine d'ici la mi-septembre. Microsoft est sur les rangs. Il faudra aussi, dit le locataire de la Maison Blanche, qu'une partie du montant de ce rachat soit reversée à l'État. La France ne ratifiera pas l'accord d'extradition signé en 2017 avec Hong Kong, volte-face du Quai d'Orsay, en raison de la reprise en main par Pékin du territoire autonome ces dernières semaines.
Enfin, on a beaucoup parlé des annulations à la chaîne pour les festivals, pour les spectacles cet été à cause de la pandémie.
Mais il y a un festival qui a résisté, le magnifique festival de piano de la Roque d'Anthéron entre Marseille et Avignon. Des concerts en extérieur dans un parc de 10 hectares avec évidemment beaucoup moins de public que d'habitude, mais le sentiment d'être quelque part privilégié. Stéphane Frangy.
Le spectacle continue. À l'ombre des platanes, une pianiste se produit face à un public clairsemé mais enthousiaste, à l'image de Jacques.
Ah, eh bien écoutez, je suis le prince consort. C'est formidable, oui, d'autant plus que nous sommes un petit peu des rats de festival. Il y avait d'autres festivals annulés, malheureusement. Notre seul festival pour cet été, c'est la Roque d'Anthéron. Celui-là, il est particulièrement cher à notre cœur. C'est une autre ambiance, un peu différente, un petit peu étrange. On s'y fait. Ouais, on s'en souviendra.
Un fauteuil sur deux est condamné pour ne laisser personne côte à côte, même les couples, et le public peut retirer son masque seulement le temps du concert. C'est à ce prix que le directeur artistique René Martin a pu sauver cette édition.
On a donné un signe, la vie musicale allait reprendre. On a réussi ce pari un peu fou. Nous avons un parc de 10 hectares en pleine nature. On a des allées, donc le public peut très bien ne pas se croiser. C'est ce qui fait qu'on a pu se maintenir. Ça a été très compliqué parce que habituellement nous accueillons 2000 personnes et là nous accueillons 600 personnes.
Ce qui fait 65%. 10% de public en moins et pour compenser ce manque à gagner, eh bien les artistes ont accepté une baisse équivalente de leur cachet. La Roque d'Anteron, Stéphane Frangy, Europe 1.
Voilà, ça fait du bien. Un peu de musique.
Exactement, quelques notes de piano.
La fin du journal de 8h de Théo Manval. Prochain journal à 8h30 avec Sophie Tussaud.